Tout en demeurant dans cette attitude de prière, si on m'enlevait Jésus, quelle serait mon histoire? Elle ressemblerait à une feuille de brouillon chiffonnée qui n'aurait plus de valeur. Mais avec lui dans notre vie, nous sommes devenus des nouvelles créatures en Christ. Nous voulons te remercier, notre Père, pour ce temps qui nous a permis de nous approcher de toi, pour te louer, pour t'adorer. Nous approcher de toi pour élever ton nom. Nous approcher de toi, Seigneur, et t'exprimer nos sentiments, car tu es tout pour nous. Merci de nous avoir accueillis favorablement ta présence, car nous sommes, Seigneur, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes le peuple élu, choisi, mis à part pour un sacerdoce éternel. C'est donc en tant que sacrificateur de par notre position à Christ que nous nous sommes tenus devant toi pour, Seigneur, te louer, te célébrer. Merci pour tout. Après ce temps de célébration, ce temps, Seigneur, où nous t'avons exprimé nos sentiments, par des chants, par des cantiques, nous voulons maintenant nous asseoir très humblement, Seigneur, là devant ton trône, et te tendre une oreille attentive, afin de recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous. Parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons trouver toutes sortes d'images dans la nature, parmi nous, parmi les hommes, toutes sortes d'images pour illustrer la vie chrétienne, pour illustrer notre marche avec le Seigneur. Et s'il y a une image que j'affectionne particulièrement, c'est l'image de la navigation maritime. La vie chrétienne comme une navigation maritime. Et dans cette navigation, mes amis, nous rencontrerons des vents contraires, nous aurons affaire à des tempêtes, des différentes intensités, nous aurons affaire à une mer de plus en plus agitée, une mer avec des vagues de plus en plus menaçantes, avec une houle de plus en plus dangereuse qui s'abattrait contre notre barque. Voyez-vous, plutôt que de paniquer, plutôt que de se mettre à murmurer, plutôt que de se poser indéfiniment des questions, nous devrions, à la lumière de tout ce que nous avons vu jusque-là, ce que nous allons voir aujourd'hui, considérer ce temps où nous sommes confrontés à la tempête, ce temps où notre barque, si vous voulez, notre pirogue, et confronté à une mer agitée, à un fleuve de plus en plus dangereuse. Nous devons donc considérer tout ce temps-là comme des opportunités d'expérimenter Dieu dans notre vie. C'est une chose de s'asseoir dans une classe, quelque part dans une faculté de théologie ou dans une école biblique, et recevoir des enseignements en rapport avec les différentes doctrines qui sous-tendent mes amis, notre foi est de sortir de ce cursus biblique ou théologique avec un cerveau bien garni de toutes sortes de théories, de toutes sortes d'enseignements bibliques. Mais ces enseignements à eux seuls ne suffisent pas pour vous donner la vraie révélation du Dieu de la Bible. Il faudra bien que vous expérimentiez personnellement ce Dieu-là, alléluia. Vous aurez appris qu'il est un guerrier redoutable, celui qui défend son peuple, celui qui combat pour son peuple, celui qui est là pour se tenir devant son peuple et devant leurs ennemis afin de les terrasser. Tu auras appris tout cela à partir de toutes ces histoires merveilleuses et extraordinaires que nous trouvons dans la Bible, ou alors à partir de la vie de tel ou tel autre homme de Dieu ou femme de Dieu. Tout cela est bien beau, mais tout cela restera ou demeurera de l'ordre de l'intellect. Vous pourriez même écrire des livres là-dessus, jusqu'au jour où vous-même, vous vous retrouveriez dans une vallée, face à des adversaires. Alors là, le Seigneur vous aura donné l'occasion de le vivre, de l'expérimenter comme le Dieu qui est un guerrier redoutable. Les héros de la guerre, quand ils entrent dans une guerre, l'issue est connue d'avance. Et donc, toutes ces épreuves, ces passages à vide, ces moments où nous traversons toutes sortes de déserts, où notre vie passe par des saisons où nous sommes confrontés à l'aridité, à la sécheresse, des saisons de vaches maigres, et bien toutes ces épreuves-là, tous ces moments-là, toutes ces saisons-là, eh bien, seront, pour tout enfant de Dieu, pour chacun de nous, une occasion d'expérimenter Dieu, et au-delà de cette expérience, de recevoir sa révélation. Alléluia. Et gloire au Seigneur. C'est un des grands enseignements que nous trouvons dans l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Là, dans 2 Rois, chapitre 8, 6 plutôt, où il est question d'Élisée avec son serviteur dans cette petite ville de Dothan, où il vivait, jusqu'au jour où le serviteur se réveille un matin, il sort, et là, il voit quelque chose qui va l'effrayer, qui va quasiment le terrifier. Que voit-il? Il voit la ville où ils étaient, cernée, entourée par une armée puissante, composée de cavaliers, composée de soldats, des archers, des chevaux, des chars. Et la ville. L'homme panique. L'homme ne sait quoi faire. Ils sont qu'à deux. Voyez-vous, peut-être que son maître était en prière quand lui est sorti ce matin-là. L'homme tremble. Que faire face à cette multitude? Que faire à ces grands obstacles? Comment surmonter cela? Comment nous lancer dans cette bataille qui est perdue d'avance, n'est-ce pas? Et c'est là que l'homme de Dieu, qui avait l'habitude d'expérimenter Dieu au quotidien, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui connaissait qui était le Dieu au service duquel était son maître, c'est-à-dire le prophète Élie. Élisée qui connaissait qui était le Dieu qu'il avait appelé à marcher sur les traces d'Élie, qui fut son maître pendant quelques années. Voyez. Et celui-là, avec toute cette connaissance qu'il avait, qui n'était pas une connaissance acquise dans une école biblique, dans une institution religieuse, mais c'était une connaissance issue de son expérience avec Dieu. Alléluia. Il savait exactement qu'il n'était pas seul. Il savait exactement qu'avec son Dieu, peu importe le nombre d'adversaires qui se tiennent devant lui, avec Dieu, peu importe les armes que les adversaires ou l'adversaire ont pour l'attaquer, il savait qu'avec son Dieu, la victoire était plus que certaine. Alléluia. Il avait donc une confiance totale et entière dans le Dieu de la Bible. Alléluia. Et c'est là qu'il commence par le rassurer. C'est là qu'il lui dit, quand lui s'exprime, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Voyez-vous, « Comment ferons-nous » Au verset 15. « Quoi faire ? Tout est perdu. Tout est joué d'avance. Ah non. Avec le Dieu que nous prêchons à la borne depuis 40 ans, avec le Dieu au service duquel nous sommes, c'est Dieu que beaucoup d'entre nous ont rencontré un jour dans leur parcours ici-bas. Avec ce Dieu-là, eh bien, tout n'est jamais écrit d'avance. Par l'ennemi, évidemment. Mais avec lui, tout est possible. S'il permet que nous passions par des moments difficiles, c'est qu'il a quelque chose à nous révéler. Alléluia. C'est qu'il a quelque chose à nous communiquer. Il tient le monde entier dans sa main. Dieu ne se réveille pas le matin. Il ne dort d'ailleurs pas. Hein. Voyez-vous, il n'est pas... il ne dépend pas des cycles à la fois de la lune et du soleil. Il ne se dit pas, tiens, c'est au mois de janvier maintenant. Ah, tiens, c'est le mois de mars. Ah, il est quelle heure? Ah, mais voilà, je vais préparer quelque chose. Dans quelques heures, le culte, les trois cultes auront pris fin à la borne. Qu'est-ce que je vais prévoir pour telle personne, pour telle autre personne? Non. Il connaît tout. Alléluia. Pour nous, midi est devant nous. Pour nous, 14 heures est devant nous. Pour nous, la soirée est devant nous. Mais pour lui, 14 heures, midi, 14 heures, la soirée, sont là devant lui. C'est un Dieu formidable. Il dit, n'aie pas mon frère, ma sœur. Depuis plusieurs dimanches, le Seigneur essaye de te parler. Il voudrait que tu quittes un peu cette vision que tu as qui t'amène à t'appuyer sur les hommes, à t'appuyer sur les structures sociales, à t'appuyer sur ce que les hommes ont fait et qui constitue une sorte de matelas pour toi, un matelas sécuritaire, qui constitue une sorte de rempart pour toi, une protection, et que tu places toute ta confiance, totalement, entièrement, sur lui et lui seul. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Ne crains point. Ne t'épouvante point. En tremblant comme une feuille morte. Et si d'ailleurs, tu continues à trembler comme une feuille morte, vous connaissez tous le sort d'une feuille morte lorsqu'il y a un vent. La feuille commence par trembler, mais elle reste encore attachée à sa branche, hein, oui ou non? Mais plus le vent va souffler fort, plus son attachement va s'amenuiser. Et la feuille morte, hélas, va finir par... Et quand elle se détache de sa branche, eh bien, elle ne sait plus où aller. Ça ne dépend plus d'elle. Ça dépend du vent. Le vent va l'amener ici, et puis elle tombe, et puis de nouveau le vent se lève, va l'amener là-bas. Voyez-vous? Et c'est ce qui arrive, hélas, lorsque nous laissons la peur, nous laissons la crainte nous paralyser. C'est là qu'il lui dit cette parole merveilleuse. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce que tu as vu, c'est une armée avec des chars, avec des chevaux, qui entourent la ville, qui sont venus pour nous anéantir, pour nous réduire à néant. Car Élisée à lui seul représentait une menace pour l'armée syrienne. Oui, ils sont là. Mais sache que ceux qui sont avec nous, c'est un pluriel, hein? Oui ou non? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et le nombre est lié à la puissance. Que ceux qui sont avec. En fait, ce que tu vois là est une demi-réalité. Tu vois une partie seulement de la réalité. Au-delà, il y a des réalités vivantes que tu ne peux pas voir. L'invisible. La déclaration d'Élisée nous met face, mes amis, à une grande vérité concernant le monde dans lequel nous nous trouvons. Elle nous met face à une grande révélation. Laquelle? C'est que, mes amis, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Voyez-vous, nous les humains, nous les êtres de chair, nous ne sommes pas seuls. Il y a autour de nous, au-delà de nous, il y a des réalités qui restent certes invisibles, qui restent invisibles, mais qui cependant sont réelles. Voyez-vous, c'est le monde spirituel. Voyez. Ceux qui sont avec nous, il s'agit de l'armée du Seigneur, alléluia, et beaucoup plus nombreuses, plus puissantes que ceux qui sont avec eux. Ne regarde pas avec tes deux yeux à ce que tu vois. Mais au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de merveilleux. Le monde physique que nous voyons n'est pas la seule réalité. Et nous, les êtres humains, les êtres humains, étant donné que nous sommes corps, esprit et âme, nous évoluons à la fois dans ce monde physique, dans ce monde tangible, dans ce monde palpable. Je vois ma sœur qui est là, je vois toutes ces belles filles, ces beaux garçons, je vous vois chacun de vous, je peux interagir avec vous, vous m'entendez, voyez-vous, pour que nous puissions interagir les uns avec les autres, pour que nous puissions interagir avec le milieu dans lequel nous nous trouvons, Dieu nous a doté des sens, n'est-ce pas? La vue, l'ouïe, le toucher, etc. L'odorat, tous ces sens-là nous permettent de communiquer, oui ou non? Voilà. Ça, c'est notre corps. Et ce corps est animé par la vie. Il y a notre âme. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. De par cette dimension spirituelle, eh bien, nous sommes en contact avec le monde spirituel. Donc, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si un jour vous tombez ou si vous connaissez des gens qui vous disent qu'ils entendent de voix. Qui vous disent qu'ils ont été visités par une créature bizarroïde et qui a disparu. Il y a donc une influence du monde spirituel sur le monde physique. Ça, nous devons le savoir. Il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Certes, quand vous regardez ces problèmes, vous voyez qu'il y a des hommes qui les ont occasionnés, oui ou non. Mais au-delà de ces hommes, il y a ces puissances spirituelles qui sont là, qui influencent le monde, qui maintient le monde sur le chemin de la rébellion ouverte contre le Créateur. Voyez-vous? Le péché tel que vous le voyez n'est pas simplement le résultat du fait que l'homme, étant marqué, oblitéré par le péché, alors il vole, il fait ceci. Oui, il y a en nous cette propension au mal. Il y a en nous cette nature pécheresse que nous héritons, hélas, d'Adam. Nous sommes conçus dans le péché. Voyez-vous, tous ont péché, nous dit la Bible. Nous sommes conçus dans le péché. Nous naissons dans le péché. Et nous marchons dans le péché. Et à cause du péché, le monde spirituel, sous la domination de Satan, a une emprise sur nous. Ça, vous devez le savoir. Voyez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous veut à mort, enfin qui vous hait à mort. Voyez-vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il a de la haine pour vous. Non pas parce que vous êtes Mouyaka et que lui est Tété. Il y a au-delà de ce problème tribal, ethnique, que nous devons combattre absolument. Voyez-vous, il y a l'influence de l'ennemi. Lisez la Bible. Laissez la Bible façonner votre vision du monde. Laissez-vous porter par la parole de Dieu. Et vous comprendrez qu'il y a des réalités autour de nous qui cherchent notre destruction. Voyez. Le monde entier, nous dit la Bible, le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les États-Unis, la Chine, le monde entier, nous dit la Bible, est sous l'influence, sous l'autorité du diable. Comme je le soulignais la fois dernière et encore le vendredi. Venez le vendredi, on a commencé quelques exhortations qui sont une bénédiction pour moi et pour tous ceux qui viennent. Le monde entier est sous l'autorité du diable. Et donc ne vous étonnez pas que les nations se dressent les unes contre les autres. Ne vous étonnez pas de voir cette cupidité, cette convoitise. Cet esprit qui amène certains à vouloir s'accaparer de toutes les richesses du monde au détriment des autres, alors qu'ils savent très bien qu'un jour ils ont tout derrière eux. Le monde est sous l'influence. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, le terme grec utilisé, le monde entier est sous le malin, le diable, sous son influence, sous son autorité. C'est le verbe gésir. Qui veut dire être couché. Sigi. Vous avez déjà vu cette expression à l'époque. Hein? Ici couché, dans le sang de quelqu'un est mort. Voilà l'image du monde. C'est un vaste cimetière, le monde. C'est une vaste nécropole. Où n'avait que des oiseaux de proie, des vautours, des charognards. Voyez-vous. Car c'est ça. Tout ça à cause de quoi? À cause du péché. À cause de la présence de puissances démoniaques. À cause de ce que Élisée qualifie de ceux qui sont avec les Syriens. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'un jour le ciel s'est ouvert. La vie est descendue sur terre au milieu de cette nécropole, de cette vaste nécropole. Un jour la vie a jailli. En prenant le corps d'un homme, puisqu'il fallait détruire le péché dans ce corps. Jésus est venu, il a donné sa vie, il est mort à la croix. Par sa mort et sa résurrection, il a ôté l'autorité que l'homme avait cédée au diable. C'est depuis, hein. Voilà pourquoi le diable domine. Ce n'est pas Dieu qui a donné au diable, l'autorité de dominer la race humaine, lui qui est amour, non. C'est malheureusement nos ancêtres. Et nous nous sommes comme des victimes collatérales et consentantes. Et aujourd'hui, nous le payons très cher. Voyez. Jésus est mort. Jésus a remporté la victoire. Et il met à notre disposition sa victoire. Et donc, ce monde existe. C'est pourquoi il y en a. Le diable a inspiré toutes sortes de pratiques, comme la nécromancie. cette pratique abominable, horrible, condamnée par la parole de Dieu qui consiste à consulter les morts. Vous avez déjà entendu cela, non? On va voir des féticheurs, des sorciers, des gens qui prétendent avoir le pouvoir de faire revenir un mort et le mettre en contact avec le vivant. Ça, c'est la ruse du diable. Derrière cette pratique, eh bien, ce sont les démons. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Personne ne peut quitter le séjour de mort et revenir sur cette terre et entrer en contact avec vous, vous poursuivre, et essayer de vous égorger. Non! C'est le diable qui vous donne ses rêves, le diable qui veut vous maintenir dans cet esclavage, dans cette ignorance, pour continuer à vous accabler, pour continuer à vous attaquer, pour continuer à vous écraser. La vérité, c'est que votre oncle qui fut un grand sorcier, est connu à Kadiama à cause de son pouvoir occulte. Votre grand-mère était la terreur du village. Dans le Massimanimba, tout le monde la connaissait. Même le chef coutumier avait peur d'elle. Ce qu'elle disait arrivait, voyez-vous, et puis elle est morte. Et puis un jour, quelqu'un vous dit, un autre sorcier dit, non, je peux les ramener, la ramener, elle va vous donner le pouvoir. Non, votre grand-mère est partie. Même si vous rêvez d'elle, c'est rien du tout. Ce sont des souvenirs qui reviennent, ou alors c'est le diable, puisqu'il nous attaque aussi en rêve. Qui vous inspire toutes sortes de rêves, alors là vous êtes perdu, oh là là, cette grand-mère. Zonda lissou soukouna aux alak. Rentre au séjour de mort. Tu viens encore. Nazola la lissou souté. Je ne dors plus. Non, ce n'est pas elle. La pauvre, si elle est morte dans ses péchés, elle est perdue pour l'éternité. Elle ne peut plus revenir. Elle regrette d'ailleurs là où elle est de s'être laissée manipuler par les puissances occultes. La vérité, ce sont les démons qui profitent pour te perturber. Et te faire croire que tu vas entrer en contact avec le monde des morts. Non, il n'y a pas le monde des morts. C'est le monde spirituel infesté des démons, des esprits malins, de toutes sortes d'entités spirituelles qui sont là pour nous attaquer, qui sont là pour nuire. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait cet attrait vers le monde spirituel. Il y a de plus en plus en Europe, en tout cas, des écoles de sorcellerie qui proposent des cours d'apprentissage de la sorcellerie. Comment jeter un sort à quelqu'un qui est un problème pour vous? Comment lui jeter un mauvais sort et provoquer sa mort? Moi, j'ai suivi des gens, des témoignages, et ça arrivait un sorcier qui parlait, il dit oui. Quelqu'un était venu me voir parce qu'il avait un problème, je ne sais pas avec qui. Et j'avais fait ces histoires et tout ça, la personne est décédée. Eh oui, malheureusement, ça existe. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est avec vous, celui qui est avec toi, mon frère, depuis le jour où tu l'as rencontré, est tout puissant. Est tout puissant. Quand tu vas au village, va avec la paix dans le cœur. Oh, alléluia. Même si on te dit là, il y a la capitale de tous les sorciers du coin, acclame seulement le Seigneur, dis Seigneur merci. Ils peuvent être 2 sorciers, ils peuvent être 10 sorciers, ça peut être toute une confédération de sorciers, mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Et là, il va prier. Dans ces conditions difficiles, alors que l'homme ne sait plus quoi faire, l'horizon est bouché. Que faire? Il va faire une prière d'autorité. Sur la prière d'autorité, quand nous parlerons évidemment de sa place dans la vie de tout enfant de Dieu, sa place dans l'Église, il fait une prière d'autorité. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. C'est une prière d'autorité qui va faire descendre le ciel sur terre. Oh, alléluia. Oh, j'ai besoin de ce genre de prière. Et le Seigneur va ouvrir les yeux de ses jeunes serviteurs. Et que voit-il? Répondez-moi là où vous êtes. Que voit-il? Il voit des chars de feu et des chevaux entourant Élisée. Donc voilà la réalité. L'homme voit. L'homme qui était dans l'ignorance. L'homme dont la vision du monde s'est limitée seulement à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on sent, à ce qu'on entend. Cette fois-ci, le Seigneur lui ouvre les yeux. Il voit au-delà du visible. Et là, l'homme a une expérience. Il sait désormais qui est l'Éternel, au service duquel se trouve son maître Élisée. Alléluia. Il a donc fallu, mes amis, cette situation difficile. Il a donc fallu que les deux se trouvent dans une sorte de trou noir, voyez-vous, dans une vallée entourée de montagnes, des chevaux, des chars, une cavalerie impressionnante, des soldats, etc. Il a fallu qu'il soit confronté à l'armée syrienne pour que l'homme enfin réalise qui est le Dieu d'Élisée. Alléluia. Mes amis, chacun de nous doit avoir l'expérience de Dieu. Chacun de nous doit arriver à un moment de sa vie où enfin tout ce qui est théorique, toutes les vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu concernant Dieu deviennent une réalité tangible, palpable. Alléluia. Voilà. Il faudra bien que ce que nous avons entendu de nos oreilles, que Dieu est tout-puissant, que Dieu guérit, que Dieu fait quoi? Libère les captifs. Que Dieu libère, chasse exerce son pouvoir et les démons s'enfuient. Ce que nous avons entendu de nos oreilles, il faut bien qu'un jour, nous puissions le voir de nos propres yeux. Alléluia. C'est Dieu duquel on dit qu'il guérit. C'est Dieu duquel on dit qu'il est tout puissant, qu'il peut ouvrir un chemin, même à travers une mer dangereuse. C'est Dieu qui prend soin de ses enfants, même au désert où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de supermarché, en envoyant de la manne, en ouvrant un rocher et en faisant jaillir l'eau. Il faut bien que ce que nous avons entendu de nos oreilles, nous puissions le voir dans le sens de le vivre. Et après avoir expérimenté cela, nous aurons alors une vraie révélation du Dieu de la Bible. Nous pourrions dire que ce Dieu-là, mes amis, est un Dieu qui est tout-puissant. Ça ne sert à plus des choses vécues par procuration. Tel frère a vécu cela. Oh, son témoignage m'a touché. Ah, je commence à proclamer cela partout. Vous savez, mon Dieu Tout-Puissant, il avait guéri tel frère. Mon Dieu Tout-Puissant, il avait guéri telle sœur. Mon Dieu Tout-Puissant, il avait visité, etc. C'est bien. Et tu prêches, tu encourages les gens, c'est parfait. Mais il faudra bien que ce que tu dis à propos de Dieu, de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, et à travers la vie des autres, il faut bien que toi tu l'expérimentes. Alléluia. Nous pouvons acclamer son nom. Voilà pourquoi Dieu a fait passer Israël par le désert. Il y avait un chemin le plus court, comme nous l'avons lu. En quittant l'Égypte, et en prenant le couloir qu'on appelle aujourd'hui le couloir de Philadelphie, donc entre la bande de Gaza et l'Égypte, la frontière avec Israël, il n'y a aucun obstacle naturel. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien. Voilà. Vous entrez dans la bande de Gaza, vous entrez en Israël, comme ça. Et toi, bah, tiens, je suis en Israël. Oh, ben tiens, je suis en Égypte. Ça existe encore. Aujourd'hui. Mais Dieu ne l'a pas amené là. Au contraire, Dieu l'a amené, a conduit son vers plusieurs détours, n'est-ce pas? Plusieurs détours. Pour eux, ces détours étaient imprévus. Mais rappelez-vous du message que j'ai eu à prêcher il y a des années. Imprévu pour eux, mais prévu par Dieu. Là où tu es, sache que Dieu avait tout prévu. Il ne faut pas dire que c'est par hasard. Il ne faut pas dire que le diable était tellement puissant qu'il t'a amené dans cette caverne où tu ne vois plus rien. Non. Si vraiment tu es avec lui, si tu restes attaché à lui et que c'est lui qui te conduit, sache que tu es là où il te veut. Exactement là où il te veut. Et au temps où il veut. Oh, alléluia. Voilà. Alors, ne cherche pas à donner des leçons au Seigneur. Parce qu'en pensant que, mais il aurait pu me faire passer par là. C'est le chemin de plus court. Ou alors par ici. Ici, il n'y a rien. Certes, il y a quelques monticules. Mais je n'aurais pas eu de la peine à les escalader. Mais là, il m'est conduit tout droit. Et tout droit, c'est le Kilimandjaro. Comment, alors que je suis épuisé par la vie, je n'ai pas mangé, je mange péniblement, comment voulez-vous que j'amorce l'escalade de cette montagne si haute, le Kilimandjaro? Vous connaissez ça, hein? Il faut connaître la géographie de notre continent. Vous connaissez le Mont Blanc et tout ça. Ah, il faut connaître aussi Kilimandjaro. Et le Virunga. Ah, voilà. Très bien. Pas seulement connaître ce qu'il y a là-bas. Et tu te dis, tu es au pied de la montagne, comment vais-je l'escalader? Et tu commences à dire, mais cette montagne, elle ne part pas du Mozambique jusqu'à Djibouti, dont elle occupe un espace. Mais Seigneur, tu aurais pu m'éviter cette montagne, m'amener par d'autres chemins, quitte à arriver à la mer et puis à reprendre le chemin, la route. Non. Il sait pourquoi il t'a conduit là-bas. Qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Elle est grande pour toi. Mais pour Dieu, ce n'est que une topinière. Vous connaissez les ratopes, hein, qui creusent la terre, hein, et il y a des petites monticules comme ça. Hein. Pour Dieu, c'est comme une topinière. Tu peux l'écraser, tu peux faire ça, hein, et tu passes. D'où la nécessité d'avoir une vision qui va au-delà du visible. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils sont passés par le désert. Et à chaque fois, dans le désert, ils vont expérimenter différentes choses. Dieu va pourvoir à leurs besoins. Eux qui connaissaient la révélation que Abraham avait reçue sur le mont Morija, que Dieu est celui qui voit et qui pourvoit, Adonai j'irai ou Adonai irai, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça, hein? Abraham avait reçu cette vision. Eux, c'était ses descendants, oui ou non? Ils pouvaient se dire, ah oui, le Dieu de notre père, il est qui? Il est celui qui voit et pourvoit. Ils auraient même pu faire toute une dissertation là-dessus, même conduire une thèse, hein, de doctorat là-dessus. Vous voyez? C'est bien, mais il fallait un jour qu'eux-mêmes vivent le fait que Dieu est celui qui voit nos besoins et puis qui ensuite pourvoit à ces besoins-là. Alléluia! Voilà pourquoi ils sont passés par le désert. Mon frère et ma sœur, tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Le désert, c'est un lieu. Cette situation difficile est une occasion. Ce temps que tu passes est un temps particulier, une opportunité d'expérimenter Dieu dans ta vie. Alléluia. Expérimenter sa grandeur, sa toute-puissance, afin que quand tu parleras de l'omnipotence de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, que tu puisses avoir un témoignage, ton propre témoignage, alléluia, pour appuyer ce que tu auras dit ou ce que tu diras. Mais il ne faut pas que cela soit seulement de la théorie, et beaucoup n'ont que de la théorie. Ils connaissent toute la Bible théoriquement. Ils peuvent vous donner tous les titres de Dieu en hébreu. Adonai Nissi. El Olam. Adonai, comment? Shalom. Et quoi encore? Dites. Il y avait Shalom. Il y en a plein. Adonai Rapha. Sebaot, parce que Sebaot veut dire armée au pluriel. Quand on dit, bon, c'est vrai, nous chantons Sebaot, mais bon, nous chantons seulement armée. C'est pas le nom de Dieu. Sebaot veut dire armée. Il faut ajouter le nom de Dieu. Ou alors nous lançons le Seigneur Sebaot. Et puis alors, nous nous retrouvons à Sabaoth. Oui, il est Elohim Sebaoth. Il est Adonai Sebaoth, le Seigneur des armées. Alléluia. Mais il faudra bien que cela soit vécu dans ta vie. Il y en a qui connaissent tout ça, qui ont fait l'hébreu, qui ont étudié l'araméen, qui ont fait le grec. Et qui se sont retrouvés, qui se retrouvent aujourd'hui avec des cerveaux à plusieurs étages. Et qui, quelquefois, ces cerveaux-là, eh bien, deviennent un problème pour eux. Parce qu'ils sont désormais imbus d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y en a qui me suivent là à la télé. Je sais. On dit, mais la manière dont le texte grec, l'araméen, c'est ceci, puisque la syntaxe araméenne. Oui, c'est bien après. Tu es toujours devant ton salon. Tu passes tout ton temps à critiquer. Voyez-vous? Tu connais ces choses. Ces choses constituent une sorte d'armoire à plusieurs tiroirs dans ta tête. À chaque fois, tu as besoin de. Ah, tu tires tel tiroir. Tu prends la connaissance, tu l'admires, hein? Ah, et puis tu remets. Ça, c'est rien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu n'es pas le seul à avoir une tête aussi garnie. Le diable en a plus que toi. C'est d'ailleurs lui qui te maintient dans cet état pour que tu demeures orgueilleux. Que tu penses que les autres sont des ignares. Ce sont des incultes. Et que toi, tu es arrivé au summum du savoir. Voyez? Tu as la connaissance infuse. Tu suis nos prédications toujours pour voir là où le pasteur n'a pas très bien interprété. N'est-ce pas? Aujourd'hui, réponds-toi là où tu es. Oui, le peuple d'Israël avait une connaissance théorique. Ils pouvaient nous dire tant de choses sur leurs ancêtres, ce que Dieu avait fait pour Abraham, pour Jacob, pour Isaac. Ils pouvaient nous dire tant de choses, mes amis, sur ce que Dieu avait fait par rapport à Noé, vous vous rappelez, hein? Voyez-vous, tant de choses, mais c'était seulement des choses qu'ils connaissaient de manière intellectuelle. Voyez-vous, mais il fallait qu'un jour, ce qu'ils connaissaient intellectuellement, deviennent une réalité vivante dans leur vie. Voilà le bien fondé de l'épreuve. Voilà le bien fondé du passage par le désert, quelle que soit sa nature. Voyez-vous? Donc le désert n'est pas un lieu de punition. Voyez-vous? Non, pas du tout. Mais c'est un lieu de révélation. Et au travers de cette révélation, le Seigneur nous forme. Oh, alléluia. Car après une épreuve qu'on a gagnée, qu'on a surmontée, eh bien, on n'est plus le même. Oui ou non? Notre foi s'en sort ragaillardie, fortifiée. Oh, alléluia. Un lieu d'apprentissage. C'est là, au désert, que notre foi est éprouvée. Voyez-vous? Notre foi grandit, notre foi croît au fur et à mesure que nous rencontrons des obstacles. Je l'ai déjà dit, c'est comme quelqu'un qui fait de la musculation. Il doit soumettre ce corps, à, mes amis, à la résistance, n'est-ce pas? Oui ou non? Non, mais là, vous voyez, j'ai fait ça, moi, je suis fatigué. Un peu d'eau. C'est seulement ce prix-là qui va se retrouver avec un corps bien sculpté. Voilà. Et qui va avoir ce plaisir de l'exhiber. Vous avez vu comment il marche, hein? C'est le même, hein? Avant, c'était bonjour frère. Ah, frère. Ah oui. Merci. Tout cela n'arrive pas au hasard, n'est-ce pas? En effet, vous ne pouvez pas rester dans votre lit du matin au soir en train de rêver que vous avez un corps bien sculpté, avec un menton carré, avec un gros cou comme ça, des épaules, oh là là, des plaquettes de chocolat. Vous voyez? Quand vous faites ça, oh, c'est comme trois mangues. Vous rêvez. Et même dans votre rêve, vous êtes content. Et même dans votre rêve, vous voyez en train de passer dans le quartier, tout le monde vous acclame. Oh, vieux! Vous rêvez! Voilà. Et après, le malheur du rêve, quelle que soit sa beauté. Vous savez, il y a certains rêves. Vous êtes tellement bien dans ce rêve-là. Formidable. Vous avez l'impression d'être déjà au ciel. Or, vous étiez là. Tout le monde vous appelait chef. Avec des chauffeurs. Vous êtes vu, vous sortez, on vous ouvre la portière. Hé, maman, bienvenue. Vous rêvez tout ça. Et dans votre rêve, vous voulez que ça continue. Jusqu'à ce que le voisin, qui est en train de chauffer son véhicule pour partir au boulot, par mégarde, klaxonne. Et quand vous sortez, oh là là, c'était si beau. Ça, c'est ça, malheureusement.
Ou heureusement, parce que ce qui est bon, oui, on a envie que ça reste, mais si c'est un cauchemar, on a envie que ça quoi? Ça s'arrête, hein?
Voilà, c'est ça le rêve, mon ami. Ça te fait du bien pendant un temps. Tu rêves, tu voyages partout.
Hein? J'ai appris qu'il va y avoir un remaniement. Tu peux même rêver que c'est toi le futur premier ministre. Oui, mais toi qui me suis. Voilà. Et dormir avec ça. Et même voir le président assis derrière, seul, ou peut-être avec quelques conseillers.
Et toi-même, et s'il y a de bizarre dans ton rêve, c'est toi-même qui amène le dossier. Comment veux-tu amener le dossier?
On rêve. Mais il faut bien qu'un jour le rêve s'arrête. C'est la réalité qui est importante. Il faut que nous connaissions ces choses. Alléluia. Il faut que tout ce que nous connaissions concernant l'histoire d'Israël, concernant l'histoire des patriarches, nos patriarches dans la foi, concernant les héros de la foi, tout ce que nous connaissons concernant les premiers disciples du Christ, concernant les chrétiens du livre des Actes des Apôtres, tout ce que nous connaissons concernant toutes ces personnes qui ont apporté le réveil sur cette terre, concernant Renard Bonquet, concernant Jacques Verneau, tout ce que nous connaissons, concernant tel serviteur de Dieu et tout ça, il faut bien que cela devienne une réalité pour nous. Nous devons considérer cela comme des traces, et je terminerai par là, comme des traces vivantes que le Seigneur a laissées sur terre à travers la vie de ces personnes. Et non pas comme des destinations finales. Vous voulez découvrir comment Abraham a expérimenté sa gloire, la kabod. Vous savez que kabod en hébreu, le premier sens de kabod, c'est le poids. Et glorieux, ce qui a du poids. Ah, c'est ça, kabod. Vous pouvez faire une étude d'Abraham. Vous pouvez même calculer le poids de la kabod dans la vie d'Abraham. Oui ou non? Et puis arriver à la fin au formidable. Notre Dieu, j'ai essayé de comprendre la puissance de la gloire de Dieu dans la vie d'Abraham. C'est terrible. Amen, amen. Mais après, est-ce que vous avez gagné quelque chose? Si ce n'est qu'intellectuellement. Ce qu'Abraham a vécu, ce que Moïse a vécu, ce que David a vécu, ce que Samuel a vécu, ce que tous ces héros de la foi ont vécu, ce que nos pères dans la foi ont vécu, sont des traces qui montrent la piste qui conduit à Dieu. Et non pas de point de destination. Nous cherchons Dieu à travers les traces qu'il a laissées. Abraham l'a saisi à Morija. Mais je ne dois pas m'arrêter à Morija. Vous pouvez aller dans toutes ces régions et voir la montagne de Morija. Et faire de ces sites un site de pèlerinage. Comme dans certaines religions, hein. Ou alors, ça a été la tombe du Seigneur. J'ai visité ça quelques reprises. En Jérusalem. Il y a même deux lieux. Les gens se battent. Eh oui, il y a deux lieux. Il y a un lieu qui est un peu excentré. Et c'est vrai, ce lieu-là, il y a un jardin. Là aussi, il y a une sorte de caveau, de grotte. On dit c'est là. Et au loin, on peut voir ce rocher avec la forme d'un crâne. Golgotha. En araméen. Vous voyez, on peut voir tout ça. D'autres vous disent, c'est de l'autre côté, c'est un peu plus vers le centre de Jérusalem, et les gens font de tout. Mais oui, ça fait toujours plaisir. Mais ce ne sont pas des lieux que je dois vénérer. Vous m'entendez? Voilà. Oh, yes, oui. C'est vrai que nous pouvons être touchés par la souffrance qu'il endurait pour nous. Mais il n'est pas au tombeau. Il n'est pas au tombeau. Au troisième jour, le tombeau se retrouvait vide. Il est ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Il est assis sur son trône de gloire. Il est en son règne dans l'univers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est là, au milieu de nous. Alors pourquoi pleurer un vivant parmi les morts? N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Jacques Verneau? Les traces que Dieu a laissées. Ça m'intéresse, mais ça ne doit pas être ma finalité. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Pierre? Cet homme qui était sanguin, il était un peu comme moi. Toujours prêt à parler. Ah ben, il y a des gens comme ça. J'aurais aimé avoir un autre caractère. Vous voyez? Mais il ne peut pas y avoir... Il y a des fils du tonnerre et puis... D'autres. Toujours prêt à parler. Prêt même avant que le Seigneur termine sa phrase. Seigneur, moi d'ailleurs, je poursuivrai jusqu'au bout. Et donc on nie Pierre. Et puis un jour, il a nié. Il a renié. Et puis il a pleuré. Et puis le Seigneur l'a restauré. Et puis il se retrouve dans la chambre haute. Et puis il est baptisé dans le Saint-Esprit avec les autres. Il prend la chambre haute, c'est un nouveau Pierre. Et nous voyons tous les miracles que le Seigneur a accomplis à partir d'un homme qu'il avait renié. Pour nous, si nous étions à la tête du mouvement à l'époque-là, nous l'aurions mis sous discipline pour la vie. Quoi? Tu as entendu? Lomana, oh, c'est pas possible. Tu as entendu, Papa Kabane? Quoi? Pierre? Oh, il est mort. Non! Lui! Tu n'es pas au courant? Tous les démons le savent. Mais dis-moi, il a renié Jésus. Il a renié. Il a tourné le dos. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ni des dents, ni des lèvres, mais enfin. Ah bon? Et pire encore, une fois on aurait compris. Vous voyez, hein? Et puis il serait saisi. Trois fois. Alors, au conseil, nous décidons quoi? Une réunion avec le représentant légal. Tous les responsables des provinces. Le verdict serait tombé. Ni pauvre, il serait venu en tirant sa tête, mouillé comme une poule. Et on aurait parlé sévèrement. Et dans la plupart des cas, parce que nous aurions envié sa place. Comme il était parmi les trois. Nous, on aurait aimé être là. Maintenant qu'il est disqualifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je prends sa place. Et donc, je ne le convoque pas pour dire, non, frère, tu as mal fait. Je lui dis ça. En même temps, je voudrais influer sur les autres. Bon, comme nous sommes là. Enfin, la personne indiquée, comme vous le savez, bon, je ne dis rien. il faut d'abord voir celui qui a été responsable des districts, et puis qui a été aussi provincial, et puis qui a siégé. Donc, à partir de ces critères, mais quand on donne les critères, mais ce sont les critères qui te concernent. Dis simplement que voilà, moi j'aimerais prendre sa place. Mais le Seigneur n'agit pas comme un homme. Il use de patience. Il a récupéré. Et après la Pentecôte, c'est notre Pierre restauré. Le passé était passé. Désormais, il était tourné vers le futur. Acclamons le nom du Seigneur. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Encore une fois, il y a tant de choses à dire à propos de cette histoire d'Élisée et de son serviteur ce jour-là, lorsqu'ils se sont réveillés et que tout d'un coup ils ont réalisé qu'ils faisaient face à une armée constituée, Seigneur, des chars, des chevaux, qui étaient là pour les détruire, pour les écraser. Mais grâce te soit rendue de ce que, dans cette situation difficile, tu as permis à ses serviteurs de faire, Seigneur, une expérience. Une expérience avec toi. Concernant la réalité spirituelle. Ce jour-là, il a eu enfin une connaissance vraie, vivante, de qui tu es. Le Dieu qui règne aussi bien dans le monde physique, mais également dans le monde spirituel et même au-delà. Aide-nous à persévérer dans nos épreuves, à les considérer comme des opportunités d'expérimenter ta révélation. Merci pour tout. Merci aussi pour les offrandes, Seigneur, et nos dîmes, et pour le soutien, Seigneur, des travaux. Bénis ces offrandes. Bénis, Seigneur, tous ces bien-aimés qui donnent au Dieu. Bénis également tous ceux qui ne peuvent pas, qui méritent bien, mais qui n'ont rien. Souviens-toi d'eux. Accorde-leur un travail, même dans ces contextes. Contexte socio-économique, Seigneur, et politique très difficile, tu peux leur trouver du travail, afin qu'ils aient un salaire et qu'ils expérimentent la joie qu'il y a à donner et à recevoir. Merci pour tout. Amen.